93, deuxième partie, livre troisième, la Convention. Chapitre 1. Nous approchons de la grande cime. Nous approchons de la grande cime. Voici la convention. Le regard devient fixe en présence de ce sommet. Jamais rien de plus haut n'est apparu sur l'horizon des hommes. Il y a l'Himalaya et il y a la convention. La convention est peut-être le point culminant de l'histoire. Du vivant de la convention, car cela vit. Une assemblée, on ne se rendait pas compte de ce qu'elle était. Ce qui échappait aux contemporains, c'était précisément sa grandeur. On était trop effrayé pour être ébloui. Tout ce qui est grand a une horreur sacrée. Admirer les médiocres et les collines, c'est aisé. Mais ce qui est trop haut, un génie aussi bien qu'une montagne, une assemblée aussi bien qu'un chef-d'œuvre, vu de trop près, épouvante. Toute cime semble une exagération. Gravir fatigue. On s'essouffle aux escarpements, on glisse sur les pentes, on se blesse à des aspérités qui sont des beautés. Les torrents, en écumant, dénoncent les précipices, les nuages cachent les sommets. L'ascension terrifie autant que la chute. De là, plus d'effroi que d'admiration. On éprouve ce sentiment bizarre, l'aversion du grand. On voit les abîmes, on ne voit pas les sublimités. On voit le monstre, on ne voit pas le prodige. Ainsi fut d'abord jugée la convention. La convention fut toisée par les myopes, elle, faite pour être contemplée par les aigles. Aujourd'hui, elle est en perspective et elle dessine sur le ciel profond, dans un lointain serein et tragique, l'immense profil de la Révolution française. Chapitre 2. Le 14 juillet avait délivré. Le 14 juillet avait délivré. Le 10 août avait foudroyé. Le 21 septembre fonda. Le 21 septembre, l'équinoxe, l'équilibre, Libra, la balance. Ce fut, suivant la remarque de Rome, sous ce signe de l'égalité et de la justice que la République fut proclamée. Une constellation fit l'annonce. La Convention est le premier avatar du peuple. C'est par la Convention que s'ouvrit la grande page nouvelle et que l'avenir d'aujourd'hui commença. À toute idée, il faut une enveloppe visible. À tout principe, il faut une habitation. Une église, c'est Dieu entre quatre murs. À tout dogme, il faut un temple. Quand la convention fut, il y eut un problème à résoudre, loger la convention. On prit d'abord le manège, puis les Tuileries. On y dressa un châssis, un décor, une grande grisaille peinte par David, des bancs symétriques, une tribune carrée, des pilastres parallèles, des socles pareils à des billots, de longues étraves rectilignes, des alvéoles rectangulaires où se pressait la multitude et qu'on appelait les tribunes publiques, un vélarium romain, des draperies grecques, et dans ces angles droits et dans ces lignes droites, on installa la convention. Dans cette géométrie, on mit la tempête. Sur la tribune, le bonnet rouge était peint en gris. Les royalistes commencèrent par rire de ce bonnet rouge gris, de cette salle postiche, de ce monument de carton, de ce sanctuaire de papier mâché, de ce panthéon de boue et de crachats. Comme cela devait disparaître vite. Les colonnes étaient en douves de tonneaux. Les voûtes étaient en volige, les bas-reliefs étaient en mastic, les entablements étaient en sapin, les statues étaient en plâtre, les marbres étaient en peinture, les murailles étaient en toile. Et dans ce provisoire, la France a fait de l'éternel. Les murailles de la salle du manège, quand la Convention vint y tenir séance, étaient toutes couvertes des affiches qui avaient pullulé dans Paris à l'époque du retour de Varennes. On lisait sur l'une « Le roi rentre, bâtonner qu'il applaudira, pendre qu'il insultera ». Sur une autre « Paix, là, chapeau sur la tête, il va parler devant ses juges ». Sur une autre « Le roi a couché la nation en joue, il a fait long feu, à la nation de tirer maintenant ». Sur une autre « La loi, la loi ». Ce fut entre ces murs-là que la Convention jugea Louis XVI. Aux Tuileries, où la Convention vint siéger le 10 mai 1793 et qui s'appelèrent le Palais national, la salle des séances occupait tout l'intervalle entre le pavillon de l'horloge, appelé pavillon Unité, et le pavillon Marsan, appelé pavillon Liberté. Le pavillon de Flore s'appelait pavillon Égalité. C'est par le grand escalier de Jean Bulan qu'on montait à la salle des séances. Sous le premier étage, occupé par l'Assemblée, tout le rez-de-chaussée du palais était une sorte de longue salle des gardes, encombrée des faisceaux et des lits de camp des troupes de toutes armes qui veillaient autour de la Convention. L'Assemblée avait une garde d'honneur qu'on appelait les grenadiers de la Convention. Un ruban tricolore séparait le château où était l'assemblée du jardin où le peuple allait et venait. Chapitre 3. Ce qu'était la salle des séances. Ce qu'était la salle des séances, achevons de le dire. Tout intéresse de ce lieu terrible. Ce qui, en entrant, frappait d'abord le regard, c'était, entre deux larges fenêtres, une haute statue de la Liberté. 42 mètres de longueur, 10 mètres de largeur, 11 mètres de hauteur. Telles étaient les dimensions de ce qui avait été le théâtre du roi et de ce qui devint le théâtre de la Révolution. L'élégante et magnifique salle, bâtie par Vigarani pour les courtisans, disparut sous la sauvage charpente qui, en 93, dut subir le poids du peuple. Cette charpente, sur laquelle s'échafaudaient les tribunes publiques, avait, détail qui vaut la peine d'être noté, pour point d'appui unique un poteau. Ce poteau était d'un seul morceau et avait 10 mètres de portée. Peu de cariatides ont travaillé comme ce poteau. Il a soutenu pendant des années la rude poussée de la Révolution. Il a porté l'acclamation, l'enthousiasme, l'injure, le bruit, le tumulte, l'immense chaos des colères, l'émeute. Il n'a pas fléchi. Après la Convention, il a vu le Conseil des Anciens. Le 18 Brumaire l'a relayé. Percier alors remplaça le pilier de bois par des colonnes de marbre, qui ont moins duré. L'idéal des architectes est parfois singulier. L'architecte de la rue de Rivoli a eu pour idéal la trajectoire d'un boulet de canon. L'architecte de Karlsruhe a eu pour idéal un éventail, un gigantesque tiroir de commode. Tel semble avoir été l'idéal de l'architecte qui construisit la salle où la Convention vint siéger le 10 mai 1793. C'était long, haut et plat. À l'un des grands côtés du parallélogramme était adossé un vaste demi-cirque. C'était l'amphithéâtre des bancs des représentants, sans table ni pupitre. Garan Coulon, qui écrivait beaucoup, écrivait sur son genou. En face des bancs, la tribune. Devant la tribune, le buste de Lepelletier Saint-Fargeau. Derrière la tribune, le fauteuil du président. La tête du buste dépassait un peu le rebord de la tribune, ce qui fit que, plus tard, on l'ôta de là. L'amphithéâtre se composait de 19 bancs demi-circulaires, étagés les uns derrière les autres. Des tronçons de bancs prolongeaient cet amphithéâtre dans les deux encoignures. En bas, dans le fer à cheval au pied de la tribune, se tenaient les huissiers. D'un côté de la tribune, dans un cadre de bois noir, était appliquée au mur une pancarte de 9 pieds de haut, portant, sur 2 pages séparées par une sorte de sceptre, la Déclaration des droits de l'homme. De l'autre côté, il y avait une place vide, qui plus tard fut occupée par un cadre, pareil, contenant la Constitution de l'an 2, dont les 2 pages étaient séparées par un glaive. Au-dessus de la tribune, au-dessus de la tête de l'orateur, frissonnait, sortant d'une profonde loge à 2 compartiments, pleine de peuple, 3 immenses drapeaux tricolores, presque horizontaux, appuyés à un autel sur lequel on lisait ce mot « la loi ». Derrière cet autel se dressait, comme la sentinelle de la parole libre, un énorme faisceau romain, haut comme une colonne. Des statues colossales, droites contre le mur, faisaient face aux représentants. Le président avait à sa droite Lycurgue et à sa gauche Solon. Au-dessus de la montagne, il y avait Platon. Ces statues avaient pour piédestaux de simples dés posés sur une longue corniche saillante qui faisait le tour de la salle et séparait le peuple de l'assemblée. Les spectateurs s'accoudaient à cette corniche. Le cadre de bois noir du placard des droits de l'homme montait jusqu'à la corniche et entamait le dessin de l'entablement. Effraction de la ligne droite qui faisait murmurer Chabot. « C'est laid !» disait-il à Vadier. Sur les têtes des statues alternaient des couronnes de chênes et de lauriers. Une draperie verte, où étaient peintes en vert plus foncé les mêmes couronnes, descendait à gros plis droits de la corniche du pourtour et tapissait tout le rez-de-chaussée de la salle occupée par l'assemblée. Au-dessus de cette draperie, la muraille était blanche et froide. Dans cette muraille se creusaient, coupés comme à l'emporte-pièce, sans moulure ni rinceau, 2 étages de tribunes publiques, les carrés en bas, les rondes en haut. Selon la règle, car Vitruve n'était pas détrôné, les archivoltes étaient superposés aux architraves. Il y avait 10 tribunes sur chacun des grands côtés de la salle, et à chacune des 2 extrémités, 2 loges démesurées. En tout, 24. Là s'entassaient les foules. Les spectateurs des tribunes inférieures débordaient sur tous les plats-bords et se groupaient sur tous les reliefs de l'architecture. Une longue barre de fer, solidement scellée à hauteur d'appui, servait de garde-fou aux tribunes hautes et garantissait les spectateurs contre la pression des cohues montant les escaliers. Une fois, pourtant, un homme fut précipité dans l'assemblée. Il tomba un peu sur Massieu, évêque de Beauvais, ne se tua pas et dit « Tiens, c'est donc bon à quelque chose, un évêque !» La salle de la Convention pouvait contenir 2 000 personnes et, les jours d'insurrection, 3 000. La Convention avait 2 séances, une du jour, une du soir. Le dossier du président était rond à clous dorés. Sa table était contrebutée par 4 monstres ailés à un seul pied, qu'on eût dit sortis de l'Apocalypse pour assister à la Révolution. Ils semblaient avoir été dételés du char d'Ézéchiel pour venir traîner le tombereau de Samson. Sur la table du président, il y avait une grosse sonnette, presque une cloche, un large encrier de cuivre et un in-folio relié en parchemin qui était le livre des procès-verbaux. Des têtes coupées, portées au bout d'une pique, se sont égouttées sur cette table. On montait à la tribune par un degré de 9 marches. Ces marches étaient hautes, roides et assez difficiles. Elles firent un jour trébucher Jansonnet qui les gravissait. « C'est un escalier d'échafaud, » dit-il. « Fais ton apprentissage, » lui cria Carrier. Là où le mur avait paru trop nu, dans les angles de la salle, l'architecte avait appliqué pour ornement des faisceaux, la hache en dehors. À droite et à gauche de la tribune, des socles portaient 2 candélabres de 12 pieds de haut ayant à leur sommet 4 paires de quinquets. Il y avait dans chaque loge publique un candélabre pareil. Sur les socles de ces candélabres étaient sculptés des ronds que le peuple appelait « colliers de guillotine ». Les bancs de l'assemblée montaient presque jusqu'à la corniche des tribunes. Les représentants et le peuple pouvaient dialoguer. Les vomitoires des tribunes se dégorgeaient dans un labyrinthe de corridors, plein parfois d'un bruit farouche. La convention encombrait le palais et refluait jusque dans les hôtels voisins, l'hôtel de Longueville, l'hôtel de Coigny. C'est à l'hôtel de Coigny qu'après le 10 août, si l'on en croit une lettre de Lord Bradford, on transporta le mobilier royal. Il fallut 2 mois pour vider les Tuileries. Les comités étaient logés aux environs de la salle. Au pavillon Égalité, la législation, l'agriculture et le commerce. Au pavillon Liberté, la marine, les colonies, les finances, les assignats, le salut public. Au pavillon Unité, la guerre. Le comité de sûreté générale communiquait directement avec le comité de salut public par un couloir obscur, éclairé nuit et jour d'un réverbère où allaient et venaient les espions de tous les partis. On y parlait bas. La barre de la convention a été plusieurs fois déplacée. Habituellement, elle était à la droite du président. Aux deux extrémités de la salle, les deux cloisons verticales qui fermaient du côté droit et du côté gauche les demi-cercles concentriques de l'amphithéâtre laissaient entre elles et le mur deux couloirs étroits et profonds sur lesquels s'ouvraient 2 sombres portes carrées. On entrait et on sortait par là. Les représentants entraient directement dans la salle par une porte donnant sur la terrasse des feuillants. Cette salle, peu éclairée le jour par de pâles fenêtres, mal éclairée quand venait le crépuscule par des flamboulis vides, avait on ne sait quoi de nocturne. Ce demi-éclairage s'ajoutait aux ténèbres du soir. Les séances aux lampes étaient lugubres. On ne se voyait pas. D'un bout de la salle à l'autre, de la droite à la gauche, des groupes de faces vagues s'insultaient. On se rencontrait sans se reconnaître. Un jour, Laignelot, courant à la tribune, se heurte dans le couloir de descente à quelqu'un. « Pardon, Robespierre, » dit-il. « Pour qui me prends-tu ? » répond une voix rauque. « Pardon, Marat, » dit Laignelot. En bas, à droite et à gauche du président, 2 tribunes étaient réservées. Car, chose étrange, il y avait à la convention des spectateurs privilégiés. Ces tribunes étaient les seules qui eussent une draperie. Au milieu de l'architrave, 2 glands d'or relevaient cette draperie. Les tribunes du peuple étaient nues. Tout cet ensemble était violent, sauvage, régulier, le correct dans le farouche. C'est un peu toute la Révolution. La salle de la Convention offrait le plus complet spécimen de ce que les artistes ont appelé depuis l'architecture Messidor. C'était massif et grêle. Les bâtisseurs de ce temps-là prenaient le symétrique pour le beau. Le dernier mot de la Renaissance avait été dit sous Louis XV et une réaction s'était faite. On avait poussé le noble jusqu'au fade et la pureté jusqu'à l'ennui. La pruderie existe en architecture. Après les éblouissantes orgies de formes et de couleurs du XVIIIe siècle, l'art s'était mis à la diète et ne se permettait plus que la ligne droite. Ce genre de progrès aboutit à la laideur. L'art réduit au squelette, tel est le phénomène. C'est l'inconvénient de ces sortes de sagesse et d'abstinence. Le style est si sobre qu'il devient maigre. En dehors de toute émotion politique, et à ne voir que l'architecture, un certain frisson se dégageait de cette salle. On se rappelait confusément l'ancien théâtre, les loges enguirlandées, le plafond d'azur et de pourpre, le lustre à facettes, les girandoles à reflets de diamants, les tentures gorges de pigeons, la profusion d'amours et de nymphes sur le rideau et sur les draperies, toute l'idylle royale et galante. peinte, sculptée et dorée qui avait empli de son sourire ce lieu sévère. Et l'on regardait partout autour de soi ces durs angles rectilignes, froids et tranchants comme l'acier. C'était quelque chose comme bouché, guillotiné par David. Chapitre 4. Qui voyait l'assemblée. Qui voyait l'assemblée ne songeait plus à la salle. Qui voyait le drame ne pensait plus au théâtre. Rien de plus difforme et de plus sublime. Un tas de héros, un troupeau de lâches. Des fauves sur une montagne, des reptiles dans un marais. Là, fourmillaient, se coudoyaient, se provoquaient, se menaçaient, luttaient et vivaient tous ces combattants qui sont aujourd'hui des fantômes. Dénombrement titanique. À droite, la Gironde, légion de penseurs. À gauche, la montagne, groupe d'athlètes. D'un côté, Brissot, qui avait reçu les clés de la Bastille. Barbaroux, auquel obéissaient les Marseillais. Kervélégan, qui avait sous la main le bataillon de Brest caserné au faubourg Saint-Marceau. Jansonnet, qui avait établi la suprématie des représentants sur les généraux. Le fatal Gadet, auquel une nuit, aux Tuileries, la reine avait montré le dauphin endormi. Gadet baisa le front de l'enfant et fit tomber la tête du père. Sale, le dénonciateur chimérique des intimités de la montagne avec l'Autriche. Sillery, le boiteux de la droite, comme Couton, était le cul-de-jatte de la gauche. Loz du Perret, qui, traité de scélérat par un journaliste, l'invita à dîner en lui disant « Je sais que scélérat veut simplement dire l'homme qui ne pense pas comme nous ». Rabaud-Saint-Étienne, qui avait commencé son almanach de 1790 par ce mot « La Révolution est finie ». Quinette, un de ceux qui précipitèrent Louis XVI. Le janséniste Camus, qui rédigeait la constitution civile du clergé, croyait au miracle du diacre Paris et se prosternait toutes les nuits devant un Christ de 7 pieds de haut cloué au mur de sa chambre. Fauché, un prêtre qui, avec Camille Desmoulins, avait fait le 14 juillet. Isnard, qui commit le crime de dire « Paris sera détruit », au moment même où Brunswick disait « Paris sera brûlé ». Jacob Dupont, le premier qui cria « Je suis athée », et à qui Robespierre répondit « L'athéisme est aristocratique ». Langevinet, dur, sagace et vaillante tête bretonne. Ducos, le Rial de Boyer-Fonfrède. Rebecky, le Pilade de Barbaroux. Rebecky donnait sa démission parce qu'on n'avait pas encore guillotiné Robespierre. Richaud, qui combattait la permanence des sections. La Source, qui avait émis cet apophtègme meurtrier « Malheur aux nations reconnaissantes ». Et qui, au pied de l'échafaud, devait se contredire par cette fière parole jetée aux montagnards « Nous mourrons parce que le peuple dort, et vous mourrez parce que le peuple se réveillera ». Birotteau, qui fit décréter l'abolition de l'inviolabilité, fut ainsi, sans le savoir, le forgeron du couperet et dressa l'échafaud pour lui-même. Charles Villette, qui abrita sa conscience sous cette protestation. « Je ne veux pas voter sous les couteaux. » Louvet, l'auteur de Faublas, qui devait finir libraire au Palais Royal avec Lodoïska au comptoir. Mercier, l'auteur du tableau de Paris, qui s'écriait « Tous les rois ont senti sur leur nuque le 21 janvier. » Marek, qui avait pour souci la faction des anciennes limites. Le journaliste Cara, qui, au pied de l'échafaud, dit au bourreau « Ça m'ennuie de mourir, j'aurais voulu voir la suite. » Vigée, qui s'intitulait grenadier dans le 2e bataillon de Mayenne et Loire, et qui, menacé par les tribunes publiques, s'écriait « Je demande qu'au premier murmure des tribunes, nous nous retirions tous et marchions à Versailles, le sabre à la main. » Buzot, réservé à la mort de faim, Valazé, promis à son propre poignard, Condorcet, qui devait mourir à Bourg-la-Reine, devenu Bourg-Égalité, dénoncé par l'Horace qu'il avait dans sa poche. Pétion, dont la destinée était d'être adoré par la foule en 1792 et dévoré par les loups en 1794. 20 autres encore, Pontécoulant, Marbeau, Lidon, Saint-Martin, Dussault, traducteur de Juvénal, qui avait fait la campagne de Hanovre, Boileau, Bertrand, L'Esterpe Beauvais, Le Sage, Gomer, Gardien, Mainviel, Duplantier, Lacaze, Antiboule, et en tête un Barnave qu'on appelait Vergniaud. De l'autre côté, Antoine-Louis-Léon Florel de Saint-Just, pâle, front bas, profil correct, œil mystérieux, tristesse profonde, 23 ans. Merlin de Thionville, que les Allemands appelaient Feuerteufel, le diable de feu. Merlin de Douai, le coupable auteur de la loi des suspects. Soubrani, que le peuple de Paris, au premier prairial, demanda pour général. L'ancien curé Lebon, tenant un sabre de la main qui avait jeté de l'eau bénite. Billot Varenne, qui entrevoyait la magistrature de l'avenir. Pas de juge, des arbitres. Fabre d'Églantine, qui eut une trouvaille charmante, le calendrier républicain, comme Rouget de Lille eut une inspiration sublime, la Marseillaise, mais l'un et l'autre sans récidive. Manuel, le procureur de la commune qui avait dit « Un roi mort n'est pas un homme de moins ». Goujon, qui était entré dans Tripstadt, dans Neupstadt et dans Spire, et avait vu fuir l'armée prussienne. Lacroix, avocat changé en général, fait chevalier de Saint-Louis 6 jours avant le 10 août. Fréron Tercite, fils de Fréron Zoïle. Rulle, l'inexorable fouilleur de l'armoire de fer, prédestiné au grand suicide républicain, devant se tuer le jour où mourrait la République. Fouché, âme de démon, face de cadavre. Camboula, l'ami du père Duchesne, lequel disait à Guillotin « Tu es du club des feuillants, mais ta fille est du club des jacobins. » Jagot, qui, à ceux qui plaignaient la nudité des prisonniers, répondait « Une prison est un habit de pierre. » Javogue, l'effrayant déterreur des tombeaux de Saint-Denis. Osselin, proscripteur qui cachait chez lui une proscrite, Madame Chary. Bantabol, qui, lorsqu'il présidait, faisait signe aux tribunes d'applaudir ou de huer. Le journaliste Robert, mari de Mademoiselle Keralio, laquelle écrivait « Ni Robespierre, ni Marat ne viennent chez moi. Robespierre y viendra quand il voudra. Marat, jamais. » Garancoulon, qui avait fièrement demandé, quand l'Espagne était intervenue dans le procès de Louis XVI, que l'Assemblée ne daignât pas lire la lettre d'un roi pour un roi. Grégoire, évêque, digne d'abord de la primitive Église, mais qui plus tard, sous l'Empire, effaça le républicain Grégoire par le comte Grégoire. Amar, qui disait « Toute la terre condamne Louis XVI. À qui donc appeler du jugement ? Aux planètes ?» Rouillé, qui s'était opposé le 21 janvier à ce qu'on tira le canon du Pont-Neuf, disant « Une tête de roi ne doit pas faire, en tombant, plus de bruit que la tête d'un autre homme. » Chénier, frère d'André. Vadier, un de ceux qui posait un pistolet sur la tribune. Pagny, qui disait à Montmoreau « Je veux que Marat et Robespierre s'embrassent à ma table, chez moi. Où demeures-tu ? À Charenton. » Ailleurs m'eût étonné, disait Montmoreau. Legendre, qui fut le boucher de la Révolution de France, comme Pride avait été le boucher de la Révolution d'Angleterre. « Viens, que je t'assomme » criait-il à Lanjuinet. Et Lanjuinet répondait « Fais d'abord décréter que je suis un bœuf. » Collot d'Herbois, ce lugubre comédien, ayant sur la face l'antique masque aux deux bouches qui disent oui et non, approuvant par l'une ce qu'il blâmait par l'autre, flétrissant Carrier à Nantes et déifiant Chalier à Lyon, envoyant Robespierre à l'échafaud et Marat au Panthéon. Génitieux, qui demandait la peine de mort contre quiconque aurait sur lui la médaille Louis XVI martyrisée. Léonard Bourdon, le maître d'école qui avait offert sa maison au vieillard du Mont-Jura. Topsan, Marin, Goupillot, avocat, Laurent Lecointre, marchand, Duhem, médecin, Sergent, statuaire, David, peintre, Joseph, égalité, prince. D'autres encore. Lecointre Puyraveau, qui demandait que Marat fût déclaré par décret en état de démence. Robert Lindé, l'inquiétant créateur de cette pieuvre, dont la tête était le comité de sûreté générale et qui couvrait la France de 21 000 bras qu'on appelait les comités révolutionnaires. Leboeuf, sur qui Giray Dupré, dans son « Noël des faux patriotes », avait fait ce vers « Leboeuf vit le gendre et beugla ». Thomas Paine, américain, et Clément. Anacharsis Clotz, allemand, baron millionnaire, athée, hébertiste, candide. L'intègre Lebas, l'ami des Duplay. Rovert, un des rares hommes qui sont méchants pour la méchanceté, car l'art pour l'art existe plus qu'on ne croit. Charlier, qui voulait qu'on dit « vous » aux aristocrates. Tallien, élégiaque et féroce, qui fera le neuf Thermidor par amour. Cambacérès, procureur qui sera prince. Carrier, procureur qui sera tigre. La Planche, qui s'écria un jour « je demande la priorité pour le canon d'alarme ». Thuriot, qui voulait le vote à haute voix des jurés du tribunal révolutionnaire. Bourdon de l'Oise, qui provoquait en duel Chambon, dénoncé peine et était dénoncé par Hébert. Fayot, qui proposait l'envoi d'une armée incendiaire dans la Vendée. Tavaux, qui le 13 avril fut presque un médiateur entre la Gironde et la Montagne. Vernier, qui demandait que les chefs girondins et les chefs montagnards allassent se servir comme simples soldats. Rebel, qui s'enferma dans Mayence, Bourbotte, qui eut son cheval tué sous lui à la prise de Saumur, Gimberto, qui dirigea l'armée des côtes de Cherbourg, Jard Panvillier, qui dirigea l'armée des côtes de La Rochelle, Le Carpentier, qui dirigea l'escadre de Cancale, Robert Jo, qu'attendait le guet-apens de Rastatt, Prieur de la Marne, qui portait dans les camps sa vieille contre-épaulette de chef d'escadron, Levasseur de la Sarthe, qui d'un mot décidait ce rang, commandant du bataillon de Saint-Amand, à se faire tuer. Reverchon, mort, Bernard de Sainte, Charles Richard, Le Quignot, et au sommet de ce groupe, un Mirabeau qu'on appelait Danton. En dehors de ces deux camps, et les tenant tous deux en respect, se dressait un homme, Robespierre. Chapitre 5. Au-dessous se courbait. Au-dessous se courbait l'épouvante, qui peut être noble, et la peur, qui est basse. Sous les passions, sous les héroïsmes, sous les dévouements, sous les rages, la morne cohue des anonymes. Les bas-fonds de l'assemblée s'appelaient la plaine. Il y avait là tout ce qui flotte, les hommes qui doutent, qui hésitent, qui reculent, qui ajournent, qui épient, chacun craignant quelqu'un. La montagne, c'était une élite. La Gironde, c'était une élite. La plaine, c'était la foule. La plaine se résumait et se condensait en Seyès. Seyès, homme profond qui était devenu creux. Il s'était arrêté au tiers-état et n'avait pu monter jusqu'au peuple. De certains esprits sont faits pour rester à mi-côte. Seyès appelait tigre Robespierre, qu'il appelait taupe. Ce métaphysicien avait abouti, non à la sagesse, mais à la prudence. Il était courtisan et non serviteur de la Révolution. Il prenait une pelle et allait, avec le peuple, travailler au Champ de Mars, attelé à la même charrette qu'Alexandre de Beauharnais. Il conseillait l'énergie dont il n'usait point. Il disait aux Girondins « Mettez le canon de votre parti. » Il y a les penseurs qui sont les lutteurs. Ceux-là étaient, comme Condorcet, avec Vergniaud, ou, comme Camille Desmoulins avec Danton. Il y a les penseurs qui veulent vivre, ceci était avec Sieyès. Les cuves les plus généreuses ont leur lit. Au-dessous même de la plaine, il y avait le marais. Stagnation hideuse, laissant voir les transparences de l'égoïsme. Là, grelottait l'attente muette des trembleurs. Rien de plus misérable. Tous les opprobres et aucune honte. La colère latente, la révolte sous la servitude. Ils étaient cyniquement effrayés. Ils avaient tous les courages de la lâcheté. Ils préféraient la Gironde et choisissaient la montagne. Le dénouement dépendait d'eux. Ils versaient du côté qui réussissait. Ils livraient Louis XVI à Vergniaud, Vergniaud à Danton, Danton à Robespierre, Robespierre à Tallien. Ils piloriaient Marat vivant et divinisaient Marat mort. Ils soutenaient tout jusqu'au jour où ils renversaient tout. Ils avaient l'instinct de la poussée décisive à donner à tout ce qui chancelle. À leurs yeux, comme ils s'étaient mis en service à la condition qu'on fût solide, chanceler, c'était les trahir. Ils étaient le nombre, ils étaient la force, ils étaient la peur. De là, l'audace des turpitudes. De là, le 31 mai, le 11 Germinal, le 9 Thermidor. Tragédie nouée par les géants et dénouée par les nains. Chapitre 6. À ces hommes pleins de passion. À ces hommes pleins de passion étaient mêlés les hommes pleins de songes. L'utopie était là sous toutes ses formes, sous sa forme belliqueuse qui admettait l'échafaud et sous sa forme innocente qui abolissait la peine de mort. Spectre du côté des trônes, ange du côté des peuples. En regard des esprits qui combattaient, il y avait les esprits qui couvaient. Les uns avaient dans la tête la guerre, les autres la paix. Un cerveau, Carnot, enfantait 14 armées. Un autre cerveau, Jean de Brie, méditait une fédération démocratique universelle. Parmi ces éloquences furieuses, parmi ces voix hurlantes et grondantes, il y avait des silences féconds. La canale se taisait et combinait dans sa pensée l'éducation publique nationale. L'antenat se taisait et créait les écoles primaires. Révelière-le-Pot se taisait et révèle l'élévation de la philosophie à la dignité de religion. D'autres s'occupaient de questions de détail, plus petites et plus pratiques. Guiton-Morveau étudiait l'assainissement des hôpitaux. Maire, l'abolition des servitudes réelles. Jean-Bon-Saint-André, la suppression de la prison pour dette et de la contrainte par corps. Rome, la proposition de chape. Duboé, la mise en ordre des archives. Corinne Fustier, la création du cabinet d'anatomie et du muséum d'histoire naturelle. Guyomard, la navigation fluviale et le barrage de Lescot. L'art avait ses fanatiques et même ses monomanes. Le 21 janvier, pendant que la tête de la monarchie tombait sur la place de la Révolution, Bézard, représentant de l'Oise, allait voir un tableau de Rubens trouvé dans un galetas de la rue Saint-Lazare. Artiste, orateur, prophète, homme colosse comme Danton, homme enfant comme Klotz, gladiateurs et philosophes, tous allaient au même but, le progrès. Rien ne les déconcertait. La grandeur de la Convention fut de chercher la quantité de réel qui est dans ce que les hommes appellent l'impossible. À l'une de ses extrémités, Robespierre avait l'œil fixé sur le droit. À l'autre extrémité, Condorcet avait l'œil fixé sur le devoir. Condorcet était un homme de rêverie et de clarté. Robespierre était un homme d'exécution. Et quelquefois, dans les crises finales des sociétés vieillies, exécution signifie extermination. Les révolutions ont deux versants, montée et descente, et portent étagées sur ces versants toutes les saisons, depuis la glace jusqu'aux fleurs. Chaque zone de ces versants produit les hommes qui conviennent à son climat. depuis ceux qui vivent dans le soleil jusqu'à ceux qui vivent dans la foudre.